La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
Le fabuleux destin du système solaire. Il y a 4,5 milliards d'années naissait le système solaire parmi les milliards d'étoiles de notre galaxie, la Voie lactée. Coup de projecteur sur l'infiniment grand. Texte de Fabrice Nicot, journaliste. Il y a 4,56 milliards d'années, ce coin de galaxie que nous habitons aujourd'hui, niché dans le bras d'Orion, n'est qu'un immense nuage de gaz et de poussière, faiblement éclairé par des étoiles lointaines. C'est la nuit des temps, et rien n'indique qu'elle aura une fin. Pourtant, un beau jour, ce nuage commence à s'effondrer sur lui-même. Peut-être a-t-il été déséquilibré par l'onde de choc d'une explosion d'étoiles, une supernova. Toujours est-il qu'il se contracte sous l'effet de la gravitation. La nuée prend la forme d'une sphère. La matière se presse au cœur. Température et pression montent en flèche. Dans ces conditions infernales, 15 millions de degrés au centre, les atomes d'hydrogène fusionnent entre eux, libérant de considérables quantités d'énergie. Le Soleil lance ses premiers rayons. En s'allumant, notre étoile commence à inverser le mouvement de matière. Gaz et poussière qui tombaient sur elle sont désormais soufflés vers l'extérieur par l'énergie qui se dégage du jeune astre. Il se trouve ainsi entouré d'un anneau de gaz et de poussière sur plusieurs milliards de kilomètres. C'est le berceau des planètes à venir. Près du Soleil, la température dépasse les 2000 degrés. Seuls les minéraux les plus résistants à la chaleur, à base de calcium, d'aluminium, de magnésium, se condensent. Les premiers minéraux apparaissent dans le gaz. En s'éloignant un peu et le temps passant, la température descend vers les 1000 degrés. C'est au tour des métaux et des silicates de se condenser. On s'éloigne encore et d'autres éléments se solidifient, sous la forme de glace cette fois. L'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, l'ammoniac. Tous les ingrédients qui formeront les planètes font ainsi leur apparition dans l'immense disque d'accrétion qui entoure notre Soleil. Les premiers instants d'une planète sont imperceptibles. Deux poussières se percutent et restent collées en un grain qui poursuit sa course autour du Soleil. Sur sa route, ce grain rencontre d'autres poussières qui s'agrègent à leur tour. C'est ainsi que le disque d'accrétion se remplit de ces grumeaux que l'on nomme planétésimaux, ou embryons de planètes. Jusqu'à un kilomètre de diamètre environ, ils grandissent par collage de particules entre elles, au hasard des rencontres. Au-delà, le petit corps est assez massif pour attirer à lui la matière grâce à la gravitation. Mais selon l'endroit où il se trouve dans le disque d'accrétion, son destin sera radicalement différent. Jupiter. Première géante gazeuse. Ainsi, à environ 500 millions de kilomètres du Soleil, une planète grandit rapidement. Voici Jupiter, la bien nommée. Pour l'heure, elle n'est qu'un noyau de 10 fois la masse de la Terre, mais elle attire les énormes quantités de gaz qui peuplent les alentours. Il s'agit essentiellement d'hydrogène et d'hélium, les éléments les plus abondants dans l'univers. En quelques millions d'années, peut-être moins, Jupiter devient une géante gazeuse, la plus massive des planètes, 318 fois la masse de la Terre. Un peu plus loin, une autre géante voit le jour, Saturne. Mais Jupiter a largement puisé dans les réserves de gaz en privant sa petite sœur. Celle-ci ne pèsera que 95 fois la masse de la Terre. En guise de consolation, elle s'ornera plus tard d'anneaux, sans doute lors de la destruction d'un de ses satellites. Au même instant, le système solaire n'a pas plus de 5 à 10 millions d'années. Deux autres planètes voient le jour dans des lieux encore plus reculés, à plus de 3 milliards de kilomètres du Soleil. Ce sont Uranus et Neptune. Il fait très froid, et l'on trouve ici surtout de la glace. Elle forme l'essentiel du noyau de ces deux planètes, ce qui leur vaut le surnom de géantes de glace. Elles s'entourent aussi d'une couche de gaz, mais beaucoup moins épaisse que celle de Jupiter et de Saturne. À cette distance du Soleil, le gaz est moins concentré. Les géantes de glace ont donc mis plus de temps à se couvrir. Or, les jours du disque d'accrétion sont comptés. Il se dissipe en à peine 10 millions d'années. Ensuite, il est trop tard pour grossir. Uranus fera 15 fois la masse de la Terre. Neptune, 17 fois. Et la Terre ? Comme les autres planètes rocheuses, Mercure, Mars et Vénus, elle connaît une naissance plus longue et chaotique. Rapprochons-nous du Soleil à moins de 150 millions de kilomètres. Il fait chaud, on ne trouve ni glace, ni gaz. L'endroit est surtout riche en silicates et en métaux. Ici, lorsqu'un embryon de planète devient massif, il ne s'entoure donc pas d'une épaisse couche de gaz, il est heurté de plein fouet par un autre embryon. Les deux corps se fondent alors en un seul, lors de cataclysmes d'une violence inouïe. C'est ainsi que Mercure, Vénus, la Terre et Mars grandissent lentement, par convulsion. Mais un événement va tout bouleverser. Le chaos après la naissance. Pour comprendre son importance, résumons-nous. Environ 3,5 millions d'années après sa naissance, le système solaire n'a qu'un vague air de ressemblance avec ce qu'il est aujourd'hui. Globalement, il est deux fois moins étendu. Près du Soleil, un vaste anneau de poussière et de roches s'étend jusqu'à environ 450 millions de kilomètres. C'est la nurserie des planètes telluriques en formation. Ensuite règne en majesté Jupiter, mais elle est alors deux fois plus proche du Soleil qu'aujourd'hui. Puis viennent Saturne, Neptune et enfin Uranus, qui à l'époque est la planète la plus éloignée du Soleil. Enfin, un immense anneau de glace et de poussière clôt le système solaire. Il s'agit de cette matière première dont sont faites les planètes. Mais située loin du Soleil, elle est trop dispersée pour s'agréger. Elle est restée à l'état brut, formant ce que l'on observe encore aujourd'hui, les astéroïdes, les comètes et les planètes naines, comme Pluton. Vers 3,5 millions d'années, un incroyable ballet se met en place au royaume des planètes géantes. Jupiter et Saturne, tout juste formés, commencent à glisser vers le Soleil. Orbite après orbite, elles se rapprochent en une vaste spirale jusqu'à ce que Jupiter occupe la position de Mars aujourd'hui à seulement 200 millions de kilomètres du Soleil. Ce glissement s'explique par une interaction complexe entre le gaz de la nébuleuse primitive et les planètes géantes. Quoi qu'il en soit, le mouvement de ces deux pachydermes n'est pas sans conséquences. Jupiter notamment entraîne avec elle une cohorte d'astéroïdes qui se trouvent précipités vers le Soleil et viennent grossir l'anneau où se forment les planètes telluriques. Sous l'effet gravitationnel de Jupiter, la zone se contracte et la matière se retrouve comprimée dans un anneau qui ne s'étend guère au-delà de 150 millions de kilomètres. C'est le chaos. Les collisions se multiplient. Il est probable que des planètes comme la Terre, en formation ou tout juste formées, sont précipitées vers le Soleil et disparaissent sans laisser de traces. L'éléphant est Sirius Audio. Vous allez voir ce que vous allez entendre. Nouveau coup de théâtre. 1 million d'années après le début de leur mouvement vers le Soleil, les deux géantes commencent à rebrousser chemin. Leurs orbites se trouvent en effet dans une combinaison particulière, dite en résonance. Chaque fois que Saturne réalise 2 tours du Soleil, Jupiter en fait 3. Dans cette configuration, elle cesse de se rapprocher du Soleil et s'en éloigne pour des raisons complexes liées à la mécanique céleste. C'est la grande virée de bord, selon un scénario élaboré par l'astronome Alessandro Morbidelli et son équipe de l'Observatoire de Nice en 2011. Jupiter et Saturne repartent vers les confins du système solaire. Mais leur œuvre est faite. En concentrant la matière dans l'anneau, elles ont hâté la formation de planètes telluriques à coups de collisions titanesques. Du chaos émergent 4 rescapés. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Toutes gardent des cicatrices de leur effroyable naissance. Une grande partie du manteau en silicate de Mercure a été arrachée lors d'une collision géante, si bien qu'aujourd'hui la planète surprend par son cœur métallique disproportionné, 1800 km d'épaisseur, en comparaison de ce qui reste de son manteau, 600 km. La Terre garde une cicatrice plus originale, la Lune. Notre satellite s'est en effet formé suite à l'impact d'un corps grand comme Mars avec la toute jeune Terre. De grandes quantités de matière ont été éjectées en orbite, puis se sont peu à peu rassemblées pour former la Lune. Enfin, Mars a été marqué d'une autre manière. Cette planète est en vérité juste un peu plus qu'un embryon. Sa masse ne représente que 10% de celle de la Terre. Or, c'est précisément parce qu'elle s'est formée au bord de l'anneau de matière concentrée qu'elle a manqué de matière. Elle a en quelque sorte souffert de famine et n'a pu achever tout à fait sa formation. Mars la Rouge, la planète du dieu de la guerre, n'est en fait qu'une pauvre enfant rachitique. Les cicatrices profondes des planètes. Quelques 700 millions d'années après sa naissance, notre système solaire subit encore un événement majeur. En repartant vers ses confins, Jupiter et Saturne chamboulent l'orbite des deux géantes de glace qui ferment la marche des planètes, Neptune et Uranus. Leurs orbites jusqu'ici circulaires s'allongent en de majestueuses ellipses qui envoient les deux géantes semer la pagaille dans le disque de matière entourant le système solaire. Astéroïdes et noyaux de comètes qui forment cette ceinture sont alors comme des quilles renversées par une boule de bowling. Elles partent tous azimuts, notamment vers l'intérieur du système solaire. C'est l'heure du grand bombardement. Les planètes sont la cible d'astéroïdes qui les frappent violemment, laissant de profonds cratères d'impact. Sur Terre, l'érosion due à la pluie et au vent, ainsi que la tectonique des plaques, qui recycle en permanence sa surface, effaceront les traces du carnage. En revanche, elles restent bien visibles sur la Lune. La majeure partie des cratères que l'on observe aujourd'hui date de cette époque. Les planètes intérieures ne sont pas les seules à souffrir. Uranus et Neptune, catapultées sur des orbites croisant les astéroïdes, vivent des temps troublés dont elles garderont des traces. Comme l'étrange axe de rotation d'Uranus qui pointe vers le Soleil, la planète couchée semble rouler sur son orbite. Il est possible qu'un choc avec un gros corps soit à l'origine de ce renversement. Par ailleurs, leurs orbites sont tellement chamboulées que la position des planètes s'inverse. Neptune devient la lanterne rouge du système solaire, juste derrière Uranus. Passé cette ultime catastrophe, le système solaire se stabilise enfin. Désormais, les planètes vont jouer leur partition en solo. Mercure, collé au Soleil, restera à jamais un petit astre brûlé sans atmosphère. En revanche, Vénus, la Terre et Mars se dotent d'une couche de gaz protectrice. Contrairement aux planètes géantes, ce gaz ne vient pas de l'espace, mais de leurs entrailles. Il s'agit essentiellement de dioxyde de carbone, d'azote, d'ammoniac et de méthane, relâchés par les roches lorsqu'elles se sont fondues dans le magma. La prime jeunesse des planètes telluriques est encore mal connue. On ignore l'origine de l'eau sur la Terre, par exemple. Nous savons qu'elle était présente très tôt après la formation de notre planète, peut-être apportée par un gros corps très riche en glace. Mais ce n'est qu'une hypothèse, toujours discutée. De récentes découvertes sur Mars indiquent que la planète rouge a connu elle aussi des océans et des lacs à sa surface. Mais pour des raisons inconnues, son climat a changé de telle sorte que désormais, l'eau n'y coule plus. Il fait très froid. Elle reste toutefois bien visible sous forme de glace dans les calottes polaires ou sous la surface de poussière rouge. Vénus, cachée sous un épais manteau de nuages, est un désert brûlant à 400 degrés. Si des océans ont un jour couvert sa surface, toute trace en a disparu depuis longtemps. Seule la Terre a su conserver le précieux liquide. C'est là, dans l'un des océans qui la couvrait alors, que la vie est apparue, il y a environ 4 milliards d'années. Mais c'est une autre histoire. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site serious.audio.